BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, cette fois, ce n'est pas juste un petit coup de froid, comme on dit, c'est une véritable inquiétude qui s'empare des marchés financiers. La Bourse de Paris a perdu 6% cette semaine. La situation politique en France interpelle. Mais vraiment, on va retrouver Étienne Brack depuis Euronext, bien sûr, dans un instant. Sinon, on a le nouveau Front Populaire, comme on l'appelle, qui a présenté ce midi son programme pour les législatives. On y retrouve les grands classiques qu'on connaît, la hausse du SMIC, le blocage des prix, encore le rétablissement de l'ISF. Raphaël Couder va nous en dresser l'inventaire dans un instant. On parlera par ricochet, bien sûr, du programme du Rassemblement National aujourd'hui. Puis on dira un mot, tout autre sujet, de ce G7 qui se poursuit en Italie avec un invité de marque aujourd'hui. C'est le pape qui est venu lui-même exprimer d'autres inquiétudes pour le coup. Voilà le programme, non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc les marchés pour commencer, parce que la séance a encore été très très dure aujourd'hui à Paris. Bonsoir Étienne, on perd 2,9% sur le CAC 40 ce soir et plus de 6% sur l'ensemble de la semaine. On n'avait pas vu ça depuis plus de 2 ans, Étienne.
En effet, c'est la plus forte baisse hebdomadaire pour le CAC 40 depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est une baisse importante, un CAC 40 qui perd 500 points sur l'ensemble de la semaine. Avec la baisse du jour de plus de 2%, le CAC 40 a effacé tous les gains accumulés depuis le 1er janvier quand Wall Street évolue sur des niveaux records. Depuis lundi, les acheteurs se font rares et la bourse met une prime de risque sur cette instabilité politique en France. En une semaine, rendez-vous compte, le secteur bancaire a lâché plus de 10%. Idem pour le secteur des concessions. À 7500 points, c'est simple, le CAC 40 revient sur ses niveaux de fin janvier et tous les experts qui se sont succédés depuis lundi sur l'antenne estiment qu'en effet, il y a des points d'entrée sur le marché, mais rendez-vous compte, il reste encore 10 séances avant le scrutin législatif et d'ici là, eh bien, il y aura encore beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de brouillard, donc visiblement, comme encore aujourd'hui, le marché ne se précipite pas pour racheter les niveaux actuels.
Bon, si on veut se consoler un peu, Étienne, on voit que ça a tangué un peu sur la dette française, mais ça ne s'emballe pas là pour l'instant, hein.
En effet, très clairement, rendez-vous compte, le 10 ans français est à 3,1% ce soir, c'est-à-dire le même niveau que vendredi dernier, avant l'annonce surprise d'Emmanuel Macron d'annoncer des élections législatives. Alors qu'en début de semaine, souvenez-vous, on était ensemble pour parler d'un 10 ans français qui était à 3,3%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, le 10 ans français sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Par contre, il y a des signaux faibles quand vous regardez le rendement portugais qui est désormais inférieur au rendement français sur la référence sur le 10 ans, et puis surtout un spread, un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui est supérieur à 80 points de base. Il faut revenir à juin 2022 pour retrouver un écart aussi important. Et à l'époque, hasard de calendrier, eh bien, c'était l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack, donc en direct de Euronext. On vous retrouve dans un instant pour voir s'il y a quelques valeurs qui ont survécu quand même aujourd'hui à la Bourse de Paris. Les marchés donc, ils sont inquiets. Et à vrai dire, ce qui a été annoncé aujourd'hui à Paris ne risque pas vraiment d'arranger les choses. Bonsoir Raphaël. Donc bonsoir, on le disait, ça y est, le nouveau Front Populaire a présenté son programme économique. C'était ce midi. C'est plutôt radical et c'est pas franchement nouveau pour le coup, Raphaël. Hein.
Oui, un programme de rupture qui promet dès le mois de juillet l'abrogation de la réforme des retraites et de celle de l'assurance chômage. Le SMIC serait lui revalorisé à 1600 euros net. Et toujours dans les premiers jours, les partis de gauche proposent également de bloquer les prix des biens de première nécessité, notamment dans l'alimentation, l'énergie et les carburants. Ensuite, ce nouveau Front Populaire se donne 100 jours pour promulguer une grande loi sur le pouvoir d'achat, loi qui prévoira notamment l'indexation des salaires sur l'inflation, et il s'engage aussi à rétablir un impôt de solidarité sur la fortune par loi de finances rectificative dès le 4 août prochain. Dans un temps plus long, beaucoup d'autres mesures sont prévues, notamment sur le logement, sur le droit à la retraite à 60 ans. Bref, un programme qui mise avant tout sur un soutien de la demande. Pour le cabinet Asterès, pas sûr du tout que ça réponde aux problèmes actuels de l'économie française qui souffre surtout aujourd'hui de contraintes importantes sur l'offre. Ce qui est sûr, c'est que ce programme coûterait très cher. Or, on le sait, la situation des finances publiques est aujourd'hui particulièrement tendue.
Merci beaucoup, Raphaël. Voilà pour ces inquiétudes sur les marchés, les programmes de l'extrême droite, de l'extrême gauche qui tendent les actions, notamment les rendements. On en parlera bien sûr avec nos experts tout à l'heure jusqu'à 19h sur BFM Business. 18h04. On voulait aussi vous parler ce soir de ces milliers de candidats aux législatives qui n'ont eu que quelques jours finalement pour s'organiser entre l'annonce de la dissolution dimanche dernier et la date limite des dépôts des candidatures dimanche prochain. L'une des questions qui se pose pour ces femmes, pour ces hommes, c'est de savoir si les banques auront accepté d'ici là de les accompagner. Financièrement parlant, bien sûr. Caroline Morisseau.
Le compte à rebours a débuté. Les candidats vont devoir ouvrir des comptes, voire obtenir des crédits en un temps record. Encore faut-il que les banques suivent, alerte le président de la commission des comptes de campagne, Jean-Philippe Vachia.
À chaque élection, il y a des problèmes, des difficultés, mais sur 6 mois, ça finit par se régler. Là, nous sommes sur 3 semaines, et donc vraiment, je suis préoccupé que les banques jouent le jeu.
Une campagne législative peut nécessiter 30 à 40 000 euros. Et comme pour n'importe quel emprunteur, les banques vont regarder de près la capacité du candidat à rembourser. Tout le monde a encore en tête l'exemple de Valérie Pécresse qui n'avait pas obtenu le remboursement de sa campagne lors de la présidentielle. Les banques risquent de ne pas se bousculer au portillon, d'autant que certaines sont traditionnellement réticentes à financer des campagnes électorales, nous dit un responsable bancaire. D'autres sont plus rassurants. On a suggéré les PGE en un temps record pendant la crise Covid. Tout cela ne devrait pas poser de problème majeur.
À dimanche, on saura date limite du dépôt des candidatures pour les candidats. Dimanche 16 juin à 18h. Dans l'actualité, il y a ce G7 qui se poursuit dans les Pouilles en Italie. Les 7 membres qui ont conjointement taclé la Chine. Ils ont dénoncé, je cite, ces surcapacités de production qui inondent, disent-ils, les marchés occidentaux de produits subventionnés à bas prix. Fin de citation. Et puis, je vous disais, il y a une invitée surprise, un invité de marque au G7. C'est le pape qui est venu en personne dans les Pouilles. Il est venu prononcer un discours devant les dirigeants, discours sur un thème précis, c'est l'usage militaire de l'intelligence artificielle. Écoutez le pape.
Dans un drame tel qu'un conflit armé, il est urgent de repenser le développement et l'utilisation de dispositifs tels que les armes autonomes létales afin d'en interdire l'usage, en commençant par un engagement dynamique et concret. Il faut introduire un contrôle humain plus important et significatif.
Voilà le pape François dans les Pouilles au sommet du G7 aujourd'hui en Italie. Dans l'actualité des entreprises, la SNCF annonce qu'elle va muscler son offre de Ouigo dans les prochaines années de 38 rames aujourd'hui. On va passer à 50 d'ici 2027. Ça représente 8 millions de places supplémentaires et aussi promet la SNCF plus de destinations sur les Ouigo. Et puis alors, on n'allait pas vous laisser partir comme ça sans dire un mot de l'euro qui commence tout à l'heure. Les sites de paris sportifs se frottent les mains. Parce qu'apparemment, entre l'euro et les Jeux Olympiques, on se dirige vers un nouveau record en termes de recettes. Reportage Adrien Guillaume Padovan.
Un record. L'euro de football pourrait engendrer plus d'1 milliard d'euros de mise des parieurs en France. C'est 100 millions d'euros de plus que lors de la Coupe du Monde 2022. Analyse Grégoire Dufay de l'Autorité Nationale des Jeux.
On voit que ça progresse assez fortement. C'est lié à la montée du sport dans la société. Au fait que c'est de plus en plus médiatisé, qu'il y a beaucoup d'opérateurs de jeux qui proposent des gammes assez attractives. Donc oui, c'est un grand rendez-vous. Et puis après, ça va s'enchaîner juste après, effectivement, les JO. C'est un événement moins important en termes de paris, mais qui vont passer juste après l'euro. Donc qui peuvent créer un nouveau petit événement et qui peut glaner encore pas mal de mises de la part des parieurs.
Les mises pourraient atteindre entre 200 et 400 millions d'euros. Un record pour une compétition olympique dans l'Hexagone. La Française des Jeux anticipe une forte demande pour les événements de Paris 2024. Betclic prévoit que les parieurs français se concentreront sur le football, le basket ou le handball. L'Autorité Nationale des Jeux profite de cette période pour sensibiliser au risque d'addiction.
Pour la NJ, pour sensibiliser tous les publics et dire que le pari doit rester un jeu, doit amener des émotions positives et donc il faut savoir maîtriser sa consommation.
Près de 1 400 000 joueurs sont touchés par des problèmes d'addiction, dont 200 000. Très sévèrement.
Voilà pour les paris sportifs. Ça va commencer à chauffer à partir de ce soir, a priori. 18h09, on retourne sur les marchés.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Etienne, on vous retrouve à Euronext. On rappelle donc cette forte baisse ce soir à la Bourse de Paris, moins 2,9%. On lisait plus forte baisse depuis février 2022. Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont survécu quand même, malgré tout, Etienne, aujourd'hui ?
Aucune. Vous avez toutes les valeurs qui sont, qui sont dans le rouge dans le CAC 40, à l'exception de Dassault Systèmes qui est stable. À noter que vous avez quand même des baisses impressionnantes. Hein. Thalès, moins 6,7% à 150 euros. Le secteur bancaire qui lâche plus de 4% et plus de 10% sur l'ensemble de la semaine. Avec Bruno Le Maire qui a mis de l'huile sur le feu ce matin en estimant que si l'extrême gauche ou si l'extrême droite arrivait au pouvoir, il y avait un risque de crise financière. À noter l'euro qui perd du terrain, qui perd plus d'1% sur l'ensemble de la semaine et qui redescend sous les 1,07 à 1,0686. Quand l'once d'or gagne plus d'1% à 2342 $. Et donc la Bourse de Paris qui signe ce soir sa plus forte baisse depuis juillet dernier, après un moins 2% hier, moins 2,6% ce soir à la clôture, et sauve de justesse les 7500 points, 7503 points, et donc une baisse de plus de 6% sur l'ensemble de la semaine, ce qui n'était pas arrivé depuis février 2022.
Merci beaucoup Étienne. On regarde ce qui se passe depuis du côté de New York. Le Dow Jones, mi-séance, qui perd 0,26%. 38 546 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui qui perd 0,25%, 17 623. On est bien sûr à la mi-séance du côté de Wall Street. 18h11, on revient dans un instant, bien sûr, avec nos experts qui sont là jusqu'à 19h. Et évidemment, on va revenir sur cette semaine très compliquée sur les marchés. La France qui inquiète, mais un peu partout, sur l'ensemble des marchés financiers, bien sûr. Puis on dira un mot du G7 aujourd'hui, où il y a eu un tacle commun assez net, assez franc contre la Chine, contre Pékin. Tout ça plus bien d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h15, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, bien sûr, pour refaire l'actu. Elle est prolifique ce soir, évidemment, cette actualité. Xavier Patrolin est avec nous. Xavier, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Président d'Albatros Capital, François Girolf. Bonsoir, François.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, Léonidas Kalogeropoulos. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Médiation et Arguments et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de journaux TV qui ouvrent... qui débute par le point météo. Alors nous, on fait notre météo, on est en train d'instaurer une météo quotidienne aussi, c'est la météo des taux d'emprunt obligataires français, finalement. Un peu la météo des marchés qui est en train de devenir la nôtre et qui va rester la nôtre. Où est-ce qu'on en est ce soir? On est à 3,12% sur l'indice, sur l'OAT, 10 ans, qui est monté jusqu'à 3,34 il y a ça quelques jours. Mais c'est pas ça, en fait, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que l'écart est en train de se creuser avec le Bund allemand, le fameux spread, qui est monté aujourd'hui à 80 points de base. Raphaël Couder nous rappelait tout à l'heure, et nous le rappellera tout à l'heure, on n'était pas monté à ce niveau-là depuis l'entre-deux-tours de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ajoute à ça la hausse, la baisse de la Bourse de Paris, moins 6% cette semaine. Les marchés s'inquiètent. Mais pas que la Bourse de Paris, les marchés dans leur ensemble s'inquiètent. Il se passe quelque chose là, véritablement, Xavier, pour le coup.
Oui, parce qu'on peut même élargir au-delà de la scène française, puisque les spreads des périphériques, des pays européens, c'est-à-dire je pense à l'Espagne, l'Italie, la Grèce, dérivent aussi. Donc le choc diffuse. Et le choc diffuse parce qu'on a ouvert la boîte de Pandore de l'incertitude. La France était un pilier central, c'était un espèce de passager clandestin de la zone euro, mais qui bénéficiait d'une cohésion d'ensemble. Et ce passager clandestin a ouvert une boîte de Pandore absolument qu'on va écrire jour après jour. Et le spread est en train de s'ajuster sur le niveau qu'il aurait dû avoir depuis très très longtemps. Donc pour moi, le spread naturel de la France se situe entre celui de l'Espagne et de l'Italie. L'Espagne, c'est à peu près 90 points de base.
L'Espagne a 3,7, 3,8, je crois.
Voilà, c'est ça.
L'Espagne a un peu plus de 4, voilà.
Et l'Italie devrait c'est 150 points de base. Donc, à mon avis, c'est à peu près le calibrage que les marchés vont aller. Pourquoi ?
Finalement, sur une semaine, le 10 ans français, il ne bouge pas des masses.
Alors, il ne bouge pas parce qu'il bénéficie d'un miracle incroyable, c'est que l'ensemble des taux 10 ans à travers le monde bénéficient des très bons chiffres, enfin des relativement bons chiffres de l'inflation américaine.
Ouais, c'est ça.
Comme il y a une référence américaine. Donc l'ensemble des taux nominaux ont baissé de 20 à 30 points de base. Donc on aurait dû, toutes choses égales par ailleurs, sans la décision funeste de dimanche soir, avoir nos taux de financement qui baissent de 30 points de base. Ils augmentent d'une dizaine de points de base parce qu'il y a le spread qui vient se rajouter.
Oui, oui.
Mais ce qui fait qu'en taux nominal, l'impact est relativement faible.
Oui, c'est ça.
Donc pour l'instant, les choses sont relativement contrôlées, mais c'est un pur miracle. C'est une conjonction de facteurs tout à fait qui est le fruit du hasard. Il ne faut absolument pas se reposer là-dessus. Donc pour moi, la tendance. Et que nous dit cette évolution du spread? Parce que le spread, c'est un truc un peu de technicien, c'est un différentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les investisseurs institutionnels étrangers Moi, j'ai regardé l'ensemble, parce que les spreads, il ne faut pas le regarder sur le 10 ans, il faut le regarder sur l'ensemble de la courbe des taux. L'ensemble de la courbe des taux, c'est-à-dire du 2 ans jusqu'au 25-30 ans, translate. Donc, ça veut dire que toutes les maturités sont en train d'être vendues. Il y a des maturités plus ou moins liquides, mais toutes les maturités sont en train d'être vendues. Ça, c'est le premier facteur. Elles sont vendues par les investisseurs institutionnels étrangers, probablement asiatiques, mais pas que, américains, j'imagine. Deuxième facteur, les investisseurs institutionnels français, qui sont gavés, ont découvert dimanche soir quelque chose auquel ils n'étaient absolument pas préparés. C'est-à-dire le risque d'incertitude institutionnelle qui s'est produit n'était pas paramétré. Donc il y a un risque de signature énorme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent évidemment pas leurs obligations, mais ils vont se couvrir sur ce qu'on appelle le marché des crédits default swap. Et on voit que le marché des crédits default swap, c'est un marché d'assurance contre le risque de défaut, est en train de déraper. Voilà, donc ça, c'est deux facteurs importants. Et dernier point qu'il faudra évidemment bien suivre, c'est les prochaines adjudications, parce qu'à mon avis, l'Agence France Trésor est en mode panique. Ils avaient évidemment travaillé sur ce sujet-là. Ils ont un plan B, si j'ose dire. Mais tout le monde va suivre les prochaines adjudications. Pourquoi? Parce qu'on va suivre le bid to cover, c'est-à-dire la demande. Oui. Jusqu'à présent, on avait une demande sur l'offre institutionnelle française.
C'est largement qui était sursouscrit.
Voilà, c'était voilà. Entre 2,5. Oui. À mon avis, les prochaines vont être très ric-rac. Et surtout, l'Agence France Trésor va devoir raccourcir probablement la duration parce que la demande, ils vont arriver à trouver de la demande sur des durations relativement courtes. Donc ça veut dire que là, ponctuellement, jusqu'à l'échéance du deuxième tour des législatives, on est dans une situation qui n'a aucune chance de se renverser.
Alors, ah non, c'est l'incertitude.
Ces 15 jours vont nous paraître très longs, Léonidas. Finalement.
Oui, mais le fait est que l'on est déjà en train d'avoir un certain nombre d'effets de ce que pourrait, à petite dose encore homéopathique, de ce que pourrait être l'effet d'un certain nombre des mesures qu'il y a dans les programmes que l'on commentera tout à l'heure. Ouais. Et le fait est qu'on a en même temps que le scénario politique qu'on est en train de vivre, les sondages, qui nous montre qu'en face de programmes absolument délirants, il y a quand même des intentions de vote qui sont très élevées.
Oui, mais pas de majorité absolue.
Alors, il n'y a pas de majorité absolue, mais enfin, on avait jusqu'à présent un certain nombre de propositions qui pouvaient être minoritaires. Enfin, elles n'étaient pas envisageables comme pouvant arriver à gouverner. Là, on a des sondages qui nous disent, ben si, après tout, tout peut arriver. Et ce tout peut arriver est en train de donner les résultats qui sont là. Et alors, je ne sais pas très bien, dans la combinaison des trois semaines que nous avons devant nous, ce que cette espèce d'alchimie bizarroïde et inédite va pouvoir faire entre des sondages, des taux d'intérêt qui bougent, les résultats de la bourse qui est en train de baisser, de dégringoler.
6% sur la semaine, hein. On n'avait pas vu ça depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Hein,
absolument, donc, et c'est qu'à début. Enfin, on est qu'à quelques jours juste post-dimanche soir. Donc je pense qu'on est en train d'avoir petit à petit la photographie de l'effet que peuvent avoir un certain nombre de mesures qui sont dans les programmes.
François Girolf, comment est-ce que vous voyez cette situation? Ce que vous dites, effectivement, c'est qu'un jour vont être terriblement mauvais sur les marchés.
Voilà, Oui, enfin, la hausse du spread, enfin, du moment qu'on est sur les marchés secondaires et qu'on ne cherche pas à émettre, ce n'est pas un coût pour l'État pour le moment. Mais la prochaine adjudication, quand même, la date est amusante, enfin, entre guillemets, c'était prévu avant les élections, c'est le 4 juillet, donc c'est entre les deux tours.
Adjudication, c'est quand l'Agence France Trésor emprunte de l'argent.
Tout à fait, c'est le jeudi, marchés, c'est jeudi 4 juillet, voilà, donc
jeudi 4 juillet.
Vous pouvez noter dans vos agendas. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Mais effectivement, je pense que, bon, et sur les marchés ensuite, je pense que c'est aussi dû à des critères totalement objectifs, c'est pas seulement de la peur, dans les programmes à la fois du Rassemblement National et du Front Populaire qui ont maintenant une chance d'accéder au pouvoir, il y a soit une hausse des impôts, enfin une taxation des super-profits d'un côté, des nationalisations, potentiellement on a parlé de nationalisation du service public qui fait mal à TF1, enfin voilà, il y a plein de choses un peu objectives en fait sur des changements à venir, ou en tout cas la probabilité de changement a augmenté, alors que jusqu'ici on était sur une stabilité fiscale quand même relativement importante, et puis tous les dispositifs de flat tax, etc., sans doute aussi vont être remis en cause. Enfin, en tout cas, la stabilité fiscale qui était là jusque-là. Et je pense que ça aussi, ça fait potentiellement peur aux investisseurs. Après, la question, c'est de savoir s'il faut délibérer démocratiquement en regardant les marchés financiers et en se disant, voilà, est-ce qu'on les regarde ou est-ce que la délibération démocratique doit être indépendante de ce qui se passe sur les marchés. Je pense que c'est une vraie question.
Un nombre très important d'entrepreneurs que j'entends souvent critiquer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Sincèrement, je trouve qu'on prend peut-être la mesure de ce que nous a apporté cette stabilité fiscale, un cap vers le plein emploi. Enfin, globalement, il y a plein de choses que l'on peut critiquer. Mais le fait est que cette stabilité, ça donne un dynamisme économique, ça donne une croissance qui est quand même là. Soudain, d'avoir un brouillard total qui nous arrive et la possibilité de remettre en cause la politique de l'offre, je pense qu'on est en train de se rendre compte de ce que nous avons comme véritable capital économique favorable aux entreprises.
Attention, plusieurs intervenants de marché nous disaient, quand on commence à perdre les marchés, ça se perd très très vite la confiance, mais pour la retrouver derrière, le timing n'est pas le même du tout. C'est très long. Hein.
Moi, je ne serais pas aussi, comment dirais-je, je vais être inquiétant, mais pas aussi expéditif. Moi, je pense qu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pricing, sauf peut-être sur le marché actions, mais il n'y a aucun pricing des programmes, parce que moi, j'ai écouté pour l'émission la conférence de presse
du Front Populaire.
Du Front Populaire. J'avoue que j'ai dû combattre pour pas arrêter d'écouter cette conférence de presse.
C'est très parcellaire, quand même, il n'y avait pas grand-chose.
Non, mais le peu qu'il y avait, enfin, j'ai pris des notes, le peu qu'il y avait, et j'ai essayé de faire des équivalences en termes de points de PIB. J'avoue que, il y a qu'en France qu'on est capable de faire un accord. Alors, c'est pas un accord de gouvernement, c'est un accord de coalition à caractère électoral. Donc, ça n'a pas la valeur des accords de coalition allemands où ils négocient pendant des semaines, voire des mois. Mais le coût budgétaire potentiel est absolument gigantesque.
Oui, c'est élevé.
Donc, sur ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, c'est pas tant ces programmes qui sont évalués, parce qu'au fond, personne n'y croit. Raisonnablement, personne n'y croit. Ce qui est en train d'être pricé, c'est le fait qu'il y a un mort collatéral le 9 au soir, 9 juin au soir. C'est la consolidation budgétaire. Au fond, la gestion que vous présentez, bon, qui a un certain nombre d'acquis, elle a quand même un énorme point de faiblesse qui est l'endettement et le déficit budgétaire. Oui. Je rappelle juste que le ministre de l'économie et des finances a dû plancher il y a à peine 3 semaines devant la commission des finances des Sénats pour justifier le dérapage en termes de communication. Et on peut dire qu'il ressort de cette audition que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une omission assumée ou implicitement assumée. Ou explicitement assumé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement les marchés price le fait une seule et une unique chose à aujourd'hui, hein, c'est qu'il n'y aura pas de consolidation budgétaire, que le déficit structurel, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on ne touche à rien, si au fond, par pur miracle, la majorité relative actuelle était reconduite, par pur miracle, imaginons ce scénario, on sait que de toute façon, il n'y a plus de consolidation budgétaire possible. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans une séquence où le déficit primaire de la France va caracoler entre 3 et 3,5% et que le coût de la dette, je rajoute, hein, parce qu'il y a dans un solde budgétaire, il y a le déficit primaire, c'est-à-dire avant la charge de la dette, puis ensuite la charge de la dette. Donc on va caler sur 3,5 plus 2,5. Donc ça veut dire que intrinsèquement, sans intégrer les programmes, ni du RN, ni du Front Populaire, on part sur un déficit budgétaire qui va osciller entre 5,5 et 6. Donc ça veut dire que les marchés aujourd'hui font juste une opération vérité, c'est-à-dire que le passager clandestin de la zone euro est en train d'être sanctionné juste à l'aune du fait que jusqu'en 2017 ou 2018-2019, il n'y aura pas de consolidation budgétaire. On n'est même pas en train de pricer l'hypothétique Front Populaire, à mon avis, probabilité zéro, ni même l'action du Rassemblement national. En termes, d'ailleurs, on a bien vu, moi j'ai écouté Jordan Bardella ce matin, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une seule chose, il est en train d'amender complètement le programme économique. Il y a juste une initiative, alors bon, après on pourra en discuter, puisque ça va être le second convoi. Mais c'est ça. Bon. Donc, attention, l'évolution du spread aujourd'hui, ce n'est pas du tout un pricing du dérapage économique. Parce que alors là, ce n'est pas 150 points de base, c'est 200, 300 points de base. On est sur des déficits budgétaires là, on se cale sur un déficit budgétaire entre 5,5 et 6. On ne rajoute pas les additions, enfin les programmes. Et avec un endettement, un ratio dette publique sur le produit intérieur brut, qui est actuellement à 112-113%, et dont les marchés savent que intrinsèquement, il va déraper sur 120-125%.
Léonidas, pour conclure là-dessus.
Écoutez, non mais globalement, je ne suis pas totalement certain que ce dérapage-là se serait fait si on n'avait pas cette séquence politique. Le seul fait, en revanche, c'est que, et puis on a eu un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont entendu Bruno Le Maire mardi matin accueilli par le mouvement patronal éthique et qui leur a dit en substance qu'il fallait pas jouer avec le feu. Le fait est que l'état de notre économie était déjà dégradé. Donc on a effectivement une espèce d'effet de loupe sur une situation qui est pas bonne, mais quand on dit qu'elle est pas bonne, c'est là où je trouve qu'il faut quand même relativiser. Elle n'est pas bonne, mais elle permet néanmoins à la France de continuer à avoir de la croissance, à avoir continuer à créer des entreprises, à être dans une phase, quoi qu'on en dise, de réindustrialisation. Et je suis très inquiet de l'idée que tout ça, cette dynamique-là, soit cassée. Et quand je parle dynamique, je sais bien que l'on pourrait dire elle n'est pas aussi grande. Je pense que tous les acteurs de cette majorité aurait souhaité que les chiffres soient meilleurs.
Oui, mais...
ils sont quand même infiniment plus intéressants et plus dynamiques que ce que est-ce nous pourrions que... avoir avec les programmes est-ce... que nous allons étudier est-ce tout
qu'il
à l'heure.
Il nous reste 30 secondes, mais est-ce qu'on ne vit pas toujours avec l'idée qu'on va vivre dans la mansuétude des marchés parce que la Banque Centrale Européenne sera là en dernier ressort, si jamais catastrophe il devait y avoir, si jamais les taux s'emballaient, qu'elle serait là en dernier prêteur, finalement. Est-ce qu'on ne vit pas encore dans cet univers-là, quelque part
Je pense que quand le risque politique entre en ligne de compte, la Banque Centrale Européenne, in fine, elle va faire ce que lui demandent de faire les pays de la zone euro. Enfin, je veux dire,
l'Allemagne.
Même si,
l'Allemagne nous laissera.
Je veux dire, la question à un moment donné, ça va être une question de politique entre l'Allemagne et la France. Et la Banque Centrale Européenne ne fera pas ce qui ne sera pas, qui n'aura pas été décidé en accord entre les deux pays. Ça pourra pas aller très loin. Donc effectivement, moi, je pense qu'il y a une vraie question qui va se poser avec les programmes dont on discute.
Ça sera un sujet.
Ça va être un sujet. Il y a, à mon avis, la question européenne, enfin de savoir nos partenaires qu'est-ce qu'ils vont en penser, n'est pas suffisamment posée. Donc il y a deux options, soit comme vous dites, on n'y croit pas. Moi je pense effectivement j'y crois pas à ces programmes, mais quand même, enfin ça va poser à un moment une difficulté. Donc et après par contre sur les marchés actions, j'avoue que moi j'ai du mal à voir le lien entre déficit primaire et baisse du CAC 40. Aux États-Unis ils font énormément de déficit primaire, ils ont les marchés actions qui sont au plus haut. Le lien entre les deux, j'avoue, voilà, n'est pas totalement évident pour moi, mais c'est très dur de savoir, de toute façon, puisqu'il se passe tellement de choses actuellement qu'on aura du mal à dire, même si c'est...
En 30 secondes, Xavier.
C'est simple, on avait Choose France depuis 7 ans, maintenant on a Leave France, c'est-à-dire que les capitaux anglo-saxons ont parfaitement compris. Non mais au fond, si vous vous placez depuis l'Arkansas, même si vous voyez ça avec un effet d'éloignement, ce que vous savez, c'est qu'on est dans une heure de vérité pour l'économie française et qu'elle rentre dans une phase, vous cumulez 4 facteurs d'instabilité, une instabilité économique, une instabilité budgétaire, une instabilité sociale, et une instabilité politique et institutionnelle. Parce que les marchés comprennent bien, et c'est en ça que la décision qu'a pris Emmanuel Macron dimanche soir est une décision, à mon avis, suicidaire pour la Ve République. Parce que c'est une décision d'un homme seul, ça constituera mon coup de cœur en fin d'émission, mais qui est prise à 19h40. Elle est prise à 19h40. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a que, à cet instant précis, et son équipe n'ont que des sondages. Ils n'ont aucune décomposition géographique. Ce type de décision, vous ne le prenez que 2, 3, 4 jours après, quand vous avez l'état des forces en termes circonscription par circonscription. Et donc, pour les marchés, ça veut dire que vous cumulez une instabilité budgétaire intrinsèque, une instabilité par rapport à vos partenaires et une instabilité institutionnelle. Parce que, au fond, la Ve République se caractérisait par une stabilité et une solidité. Et cette stabilité et cette solidité sont à aujourd'hui totalement ébranlées. Je crains que le 7 au soir, ça soit pire.
Les marchés n'aiment pas ça, les agences de notation non plus, évidemment. 18h32 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h37, on est de retour avec nos experts, avec Xavier Patrolin, avec François Girolf et avec Leonidas Kalogiropoulos. Alors, je vous ai dit, on va s'intéresser un petit peu au programme. On va revenir un petit peu sur ces programmes de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Commencez par l'extrême gauche, le nouveau Front Populaire qui a donc présenté son programme à midi à Paris. Bonsoir Raphaël Couder.
Bonsoir Guillaume.
Donc, on disait... C'est plutôt radical, mais disons-le aussi, c'est quand même du déjà-vu, cela dit. Hein,
oui, c'est un programme présenté comme un programme de rupture qui prévoit, dès le mois de juillet, l'abrogation de la réforme des retraites et de celle de l'assurance chômage. Le SMIC serait, lui, revalorisé à 1600 euros net. Toujours dans les premiers jours, les partis de gauche proposent également de bloquer les prix des biens de première nécessité, notamment dans l'alimentation, l'énergie et les carburants. Ensuite, ce nouveau Front Populaire se donne 100 jours pour promulguer une grande loi sur le pouvoir d'achat, loi qui prévoira notamment l'indexation des salaires sur l'inflation. Et il s'engage aussi à rétablir un ISF, un impôt de solidarité sur la fortune, par loi de finances rectificatives dès le 4 août prochain. Dans un temps plus long, beaucoup d'autres mesures sont prévues, notamment sur le logement, le droit à la retraite à 60 ans. Bref, un programme qui mise avant tout sur un soutien de la demande. Pour le cabinet Asterès, pas sûr que ça réponde aux problèmes actuels de l'économie française, qui souffre surtout aujourd'hui d'importantes contraintes sur l'offre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce programme coûterait très cher. Or, on le sait, la situation des finances publiques est particulièrement tendue.
Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Couder avec nous ce soir dans Good Evening Business. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui vous fait le plus peur, l'idée, c'est que mettre un terme à la politique de l'offre, finalement, qui a été...
C'est une politique keynésienne qui nous est décrite.
C'est du keynésianisme.
C'est du keynésianisme à l'état pur. Vraiment l'impression que rien n'a été appris. Enfin, rien n'a été appris, rien n'a été expliqué finalement. Parce que la question de la décorrélation du SMIC par rapport à l'inflation, cette histoire-là, on la connaît, depuis toujours. Si c'est corrélé, ça grimpe, et pour ne pas avoir des taux d'inflation qui perdurent, eh bien on a décorrélé le SMIC de l'inflation. L'histoire des retraites, enfin les chiffres des retraites, il y a un moment donné, ils devraient faire consensus. On est en train de repartir sur ce sujet-là. Enfin, ça veut dire que tous les éléments sur lesquels il y avait une tentative de maîtrise de nos comptes publics, tentative, parce qu'on n'y arrivait pas.
Tentative, oui.
Donc on sait bien qu'on n'y arrivait même pas. Oui. Donc c'est, enfin, c'est extrêmement déroutant, parce que l'on a le sentiment aussi que durant les années qui viennent de s'écouler, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais il n'y a pas eu la capacité à expliquer, à donner un peu un socle de même de diagnostic commun. Donc tout est remis en cause. Je trouve ça absolument effrayant.
Alors, est-ce que tout est remis en cause,
Gérolf?
Est-ce que tout n'est pas remis en cause aussi parce que ça marche pas si bien que ça en réalité?
Vous avez raison, ça marche pas si bien que ça. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on aimerait tous que les résultats soient meilleurs. Là-dessus, je pense qu'on est en consensus absolu.
C'est-à-dire que la politique de l'offre a été évaluée, le CICE, les études faites par France Stratégie, pourtant, donc c'est un organisme institutionnel, gouvernemental. Il y a des gens dans ce comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital qui sont plutôt à droite ou au centre droit, et donc du coup ils n'ont pas trouvé d'effet significatif de ces réformes. Alors c'est possible qu'on n'ait pas attendu assez longtemps, je pense que c'est ce que vous allez peut-être me dire,
mais
en tout cas
c'est poussé à son paroxysme quand même, quoi, le fait de tourner le doigt à la politique de l'offre.
Ah oui, alors là pour le coup je suis d'accord avec vous.
C'est peut-être
une question de dosage, oui. Mais là je vais être entièrement d'accord avec vous, mais peut-être qu'à force de présenter comme sans aucune alternative une certaine politique, du coup vous déclenchez paradoxalement un mouvement inverse, et à mon avis c'est un petit peu ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de dire il n'y a pas d'alternative, attention même à la boucle prix salaire, c'est-à-dire qu'on a été quand même jusqu'à encourager les entreprises à ne pas augmenter les salaires tellement on avait peur de cette boucle prix salaire, en les encourageant à faire des primes. Au final le résultat c'est qu'au bout de depuis 2017 le salaire dans le secteur privé a diminué en termes réels. Donc c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu allé trop loin? Et donc, de manière générale, est-ce que la majorité n'a pas été un petit peu trop loin dans cette politique? Et aujourd'hui, on a une situation où, effectivement, on a le sentiment que, du coup, il y a une volonté d'en finir avec cette politique. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Les gens... Voilà, je pense qu'en grande partie, le succès du RN surfe aussi sur ces problèmes de pouvoir d'achat. Il y a énormément, y compris d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, de petites entreprises qui ont été mis en grande difficulté à cause de la hausse des prix de l'énergie.
Oui.
Et là aussi, sur toutes ces questions, c'est vrai que c'est facile, évidemment, de trouver des boucs émissaires, de trouver des responsables, mais est-ce que la majorité a tout bien fait?
Serait-on allé trop loin dans la politique de l'offre? Xavier Patrolin.
Non, mais moi, je pense surtout que au fond, depuis 2017, il y a la perception que c'est pas une vraie politique de l'offre, fondamentalement, puisque quand on a un tel endettement, c'est pas une politique de l'offre. C'est pas vrai. Si on avait une vraie politique de l'offre, on n'aurait pas un ratio d'endettement public sur rapporté au PIB qui soit aussi dégradé. Mais au fond, le ruissellement n'a pas opéré. Le ruissellement sur la classe moyenne n'a pas opéré. Au fond, il y a, parce que toutes choses égales par ailleurs, on a eu 2 millions d'emplois de créés. Donc on aurait présupposé que c'est un mal qui a rongé la société française depuis quasiment
40 ans.
Oui. On aurait pu s'attendre à une
consécration.
Et donc, mais non, parce qu'il y a des travailleurs pauvres. Et au fond, l'inflation est venue, la smicardisation.
Ouais.
Le fait qu'il y ait un problème gigantesque sur l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, il faut toujours se souvenir que les prix de l'immobilier ont cru depuis le début des années 2000 quasiment de 300%, alors que le revenu net médian a cru d'à peine 70%.
Ouais. Donc, on parlait beaucoup de logement dans les programmes, là, pas du tout.
Et non, souvent, vous voyez des grandes institutions, pour ne pas la citer l'INSEE, mais d'autres, qui expliquent que pouvoir d'achat, préservation, dispositif et consorts. Oui, c'est vrai, moi, les chiffres sont exacts, je ne vais pas les remettre en cause. Mais quand vous faites un sondage dans la rue, vous allez voir les gens, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se loger. Donc, eux, voilà. Le pouvoir d'achat pour se loger n'est pas possible. Quand on a vu au moment du choc inflationniste, quand les prix alimentaires ont commencé à déraper, d'ailleurs, on voit les programmes focus sur les prix alimentaires. Oui, oui. À mon avis, c'est un non-sujet, les prix alimentaires, aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est les prix immobiliers. Mais quand on a vu l'inflation des prix alimentaires, on a vu toutes les couches de la société, du plus petit décile au plus grand décile, comprimer quoi ? Comprimer les dépenses alimentaires. Oui. Et on a vu cette chose incroyable. On a vu en à peine un an une compression en volume de la consommation alimentaire de 10%, ce qui ne s'était jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que tout le reste des dépenses dites incompressibles, dont l'immobilier, quand vous prenez le dernier indicateur d'inflation qui est publié par l'INSEE il y a 2-3 jours. Très bon chiffre, IPCH, hors IPCH, tout est OK. Maintenant, vous regardez la composante gaz et prix de l'immobilier. Elle est globalement deux fois supérieure à la composante de l'indice IPCH. Donc, vous avez des responsables politiques qui disent « Yahoo, on a mis tout en place pour préserver le pouvoir d'achat ». Et c'est vrai que la France n'a pas été en retard par rapport à ses pairs européens.
Mais c'est sur l'immobilier.
Simplement, on n'a pas
concentré.
Traité l'angle mort essentiel que constitue pour l'essentiel de nos concitoyens la demande immobilière.
Absolument.
Donc on est dans ce grand gap du ruissellement et le sentiment de déclassement, eh bien c'est mesuré dimanche dernier avec ce rapport de force.
Léonidas, ce point qui est fondamental, qui est qu'effectivement le travail ne paye pas suffisamment en France. Et ça, ce point-là, il est effectivement. Je pense que l'on peut mettre au crédit du gouvernement et de sa politique le fait que le chômage est baissé et de manière vraiment constante et régulière depuis le premier quinquennat. C'est quelque chose qui a progressé et ça, c'est une véritable victoire.
Avec une forte hausse des emplois aidés quand même et de l'apprentissage.
Alors, non, mais j'entends bien, mais bon, globalement, on est en train d'avoir ce basculement, il est réussi, mais c'est vrai que la promesse, et puis c'est la promesse de notre modèle, c'est que le travail paye, et quand on passe au travail et que la déception est colossale parce que le travail ne paye pas, on a globalement désespéré la société. Je pense que c'est peut-être ce ferment-là qui est exprimé dans la colère des urnes.
Bien, je vous avais promis qu'on allait faire un tour d'horizon des programmes des extrêmes. Front populaire aujourd'hui, Camille Bourg, bonsoir. On va refaire un focus, il était présenté, on en connaît les grandes lignes depuis quelques jours, mais on voulait refaire un focus ce soir sur le programme du Rassemblement National. Camille, c'est à vous.
Si une partie des mesures emblématiques sont renvoyées à 2026, et notamment la réforme des retraites, le Rassemblement National souhaite donner la priorité à deux mesures en particulier. L'objectif est simple, d'après Jordan Bardella, il faut soutenir le pouvoir pouvoir d'achat, baisser les factures d'électricité et réduire la TVA sur le gaz, le fioul et les carburants. Il prévoit donc de la réduire de 20% à 5,5%, y compris sur l'électricité. Autre levier évoqué pour faire baisser la facture, sortir des règles européenne de fixation des prix, un coût estimé à environ 10 milliards d'euros en année pleine d'après l'Institut Montaigne. Cela pourrait être voté dès l'été lors d'un budget rectificatif. Autre mesure évoquée par le Rassemblement national, l'exonération de cotisations patronales pour une entreprise qui augmenterait sa grille salariale d'au moins 10% jusqu'à 3 SMIC. Même constat de l'Institut Montaigne, coût estimé à hauteur de 10 milliards d'euros pour les finances publiques. Pour le parti, il sera possible de financer ces mesures tout en réduisant en parallèle le déficit public. Alors comment ? Eh bien en luttant contre la fraude, en contrôlant l'immigration notamment. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Camille Bourg. Oui, en luttant contre la fraude et l'immigration, voilà, c'est un petit peu l'antienne qu'on nous sert à chaque fois à lutter contre les médiations, contre la fraude fiscale, sociale. Voilà, vous n'allez pas chercher les milliards. Je précise que concernant la baisse de la TVA sur l'énergie, Bercy nous a dit aujourd'hui, c'est une facture à 17 milliards d'euros.
Oui, c'est colossal.
Si vous rajoutez les produits alimentaires, c'est 7 milliards supplémentaires. Donc 24 milliards d'euros pour cette...
C'est-à-dire à peu près le montant des économies qu'il faut qu'on fasse.
Voilà, à peu près.
Mais en dépenses. Voilà, mais en dépenses, pas en économie.
C'est ce programme-là qui a suscité le plus de crispation sur les marchés, parce que dans les sondages, le RN est le mieux placé, a priori, pour aller décrocher une majorité relative. Ça a perturbé les marchés, cette
semaine. Alors, comme le Rassemblement national a l'air de vouloir absolument estomper tout ce qui peut effrayer, j'ai bien l'impression que sur chacun des sujets qu'ils ont abordés, d'ailleurs, je vois que dans ce programme, dans cette dernière ligne droite, il n'y a plus rien sur les retraites, alors qu'il y en avait.
Il y a un flou artistique sur les retraites.
Il y a un flou artistique sur les retraites.
Non, mais on l'abrogera, puis après, ce n'est pas une priorité de l'abroger. Est-ce qu'on revient à 62 ? Est-ce qu'on revient à 60 ans ?
On va faire un audit des comptes.
Alors justement, on ne peut pas l'audit. C'est l'économiste Philippe Dessertine qui nous disait l'autre jour, quand vous commencez à parler d'audit, on connaît la fin de l'histoire, et à la fin de l'année, on va nous dire, finalement, on fait une croix là-dessus, là-dessus et là-dessus.
Voilà, parce que l'état des comptes publics ne paraît bien pas le faire.
Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, alors finalement, puisqu'on sait déjà que tout va être en partie amendé d'ici les prochains mois.
Non, je pense quand même que l'intérêt de cette séquence, c'est presque 3 semaines de vérité pour se dire, si on va dans telle ou telle direction, voilà à peu près le prix à payer. Et le prix à payer, c'est la dégringolade de la bourse, ce sont les spreads dont vous parlez, c'est possiblement d'ailleurs un début de crise sur notre dette. Et alors, est-ce que ça va avoir une réaction auprès des Français ? J'en sais rien, parce que finalement, vous avez peut-être raison, on sous-estime vraisemblablement la colère qui gronde dans le pays autour du politique qui est affiché comme étant la seule politique possible, et les Français qui se disent on s'en sort pas. Et ce contraste-là, il est probablement intenable.
François, c'est un peu le risque du ni droite ni gauche et du centrisme. Enfin, quand on a effectivement regroupé le centre-droit et le centre-gauche, il n'y a plus de contestation, on va dire, raisonnable, et du coup, forcément, on va aux extrêmes.
D'ailleurs, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est l'un des grands risques que nous avons dans cette élection, c'est qu'on a le sentiment que les forces centrales sont globalement en train de dire c'est nous ou le chaos, oui. Et donc on va continuer comme avant. Mmh. Je n'ai pas entendu pour le moment les forces centrales nous dire on va faire quelque chose de différent.
Mais vous changez
de
pas ce en que trois semaines, faisait. Vous changez pas en
oui,
trois semaines.
Enfin,
pas trop du
l'extrême gauche et l'extrême droite ont été capables en trois semaines.
Ils n'étaient pas obligés de dire on va quand même mettre en œuvre
la réforme de l'assurance chômage. D'accord avec
tout ça, c'est des choix.
Ça, c'est un appel du pied à la droite républicaine quand vous dites on maintient le cap quelque part.
Oui, mais
interprété comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit finalement ? Ils sont en train d'amender leur texte. Ils vont continuer à l'amender. Après tout, pourquoi les marchés n'achèteraient pas cette version des faits ? Ils vont amender petit à petit tout ce qui fait aujourd'hui hurler les marchés, Xavier.
Mais je ne sais pas si on est... Pardon.
Non, mais vas-y, si tu veux.
Mais je ne sais pas si on est sûr que les marchés s'affolent à cause du RN en tant que programme économique ou en tant que les désordres vers lesquels on va, étant donné que... le premier problème, à mon avis, du Rassemblement National, ce n'est pas son programme économique. Enfin, je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Le premier problème, c'est
la consolidation budgétaire, comme on parlait tout à l'heure.
Qui est au pouvoir, donc c'est on change de monde. Enfin, il y a des problèmes de liberté publique, il y a des problèmes de... Qu'est-ce qu'on fait avec les institutions ? Il y a des problèmes de... Est-ce que la fonction publique va suivre ? Est-ce que va y avoir des manifestations ? Sans doute.
Que l'ordre public, la stabilité politique sera assumée dans les prochains mois ?
Moi, je pense que tout ça, c'est des questions.
Moi, je pense surtout qu'on a vécu sur une fiction depuis, au fond, depuis Lehman Brothers, c'est qu'au fond,
l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'est une pure illusion. Parce que prenez le score d'Emmanuel Macron au soir du premier tour des présidentielles de 2017. De mémoire, il doit faire...
24%, je crois.
24%. Et avec 24%, il fait au soir du deuxième tour des élections législatives, il remporte quasiment 55 à 56% des sièges à l'Assemblée législative. Et ça n'existe dans aucun autre pays européen. Donc ça entretient l'illusion d'une majorité. Mais il n'y a pas de majorité. Ce qu'il faut savoir, ce qui est en train de se passer, c'est ce que Léon Trotsky... Alors moi, il m'arrive de dire Léon Trotsky, ça va vous, probablement vous effrayer, mais c'est très intéressant de dire les mémoires de Léon Trotsky.
Racontez-nous Léon Trotsky.
Là, je vais vous raconter l'histoire. Ce qu'il définit, caractérise une situation révolutionnaire. Il avait étudié ce qui était passé, évidemment, en Russie, mais ce qui s'était passé au cours de la Révolution française, c'est toujours à peu près la même chose. C'est quand le centre de la société, le cœur de la société, ne croit plus dans les élites. C'est-à-dire quand, au fond, la classe moyenne émergente ne croit plus. C'est-à-dire elle adhère, au fond, c'est le miracle de la Ve République, elle adhère au corpus des élites dirigeantes, plutôt bourgeoises, industrielles, plutôt de droite, plutôt de gauche, des alternances, mais elle adhère. Projet européen, tout s'enclenche, mondialisation. Et à un moment, ça dérape. Et quand ça dérape, c'est-à-dire quand le cœur de la société ne croit plus à ce projet, on va dire que Léon Trotsky appelle de bourgeois, évidemment, c'est la connotation du début du XXe siècle, mais au fond, ça n'a pas profondément changé aujourd'hui. On appelle ça le groupe élitiste en France. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher les alternatives. Et les alternatives, on va les chercher sur les bords. Et que voyons-nous actuellement au soir de l'élection européenne? C'est qu'il y a deux forces, qui sont mises en ordre de marche depuis dimanche soir, le Rassemblement National, le Front Populaire, mais que le cœur de ce qui constitue, au fond, les républicains modérés de droite,
le corps de la raison,
n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? Parce qu'il sait qu'il n'a plus l'adhésion et qu'il n'aura pas l'adhésion du peuple, entre guillemets, c'est un terme générique, en moins de 3 semaines. C'est ça notre sujet. Alors. Et donc là, il y a plus de projet d'offres, tout ça c'est du vent. Le vrai sujet, c'est après comment l'équation se passe en termes budgétaires, en termes d'endettement.
Allez, 3 semaines de campagne encore à suivre, il nous reste 2 minutes à peine, c'est l'heure de l'extra time, vos avis du soir, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes, vraiment 30 secondes ce soir. Léonidas, tiens.
Écoutez, volontiers, j'ai toujours considéré que le fait d'avoir des représentants de la nation, ça n'éclipsait pas la nation. Et le fait est que la nation, elle a une dynamique qui reste pleine et entière. Et je trouve que au moment où on regarde un peu médusé les turpitudes du monde politique, eh bien les créations d'entreprises continuent à être en hausse. Vous avez non seulement une augmentation globale, mais 32 000 nouvelles entreprises de plein exercice. Je ne parle pas des auto-entrepreneurs. Juste ce mois de mai, 32 000 nouvelles boîtes sont nées et on est dans des taux de croissance qui défient les statistiques.
Affaires continuent à tourner.
En tous les cas, les Français continuent à être entrepreneurs, ce qui est une très bonne nouvelle.
François Girolf, 30 secondes pour vous, mon cher François.
Non, juste pour continuer sur ce coup de gueule de la vision, il n'y a aucune autre alternative, le fameux TINA. C'est vrai qu'on a atteint, je pense, en France ce moment-là où on a fait croire qu'il n'y avait pas d'alternative. Et du coup, le risque vraiment de dire ça, c'est que les gens se tournent vers, même si on leur dit que c'est pas des alternatives, ils vont y aller parce que ils sont plus contents avec ce qu'il y a. Et je pense vraiment que
le message est passé. Coup de gueule de François ce soir. Xavier Patrolin, avec une faute. Alors, on l'a déjà traité hier soir, mais allons-y, parce qu'elle est saisissante.
C'est la fameuse photo qui est prise au Salon Murat dimanche soir. Une photo en noir et blanc qui est remarquable, souvent les photos. Voilà, si vous faites un petit zoom sur ce qui est juste au-dessus de l'épaule d'Emmanuel Macron, la petite horloge, vous verrez qu'il est 19h40. Donc, au-delà des visages effondrés de l'Assemblée, cette décision, quand il s'adresse à ce Conseil, il annonce la nouvelle de la dissolution, c'est à 19h40. Donc, il a très, très peu d'informations. Il a des sondages, mais rien d'autre. Il n'a pas de carte, il n'a pas de dispatching au niveau des circonscriptions. Il ne connaît pas le rapport de force, parce que le rapport de force, en moyenne, proportionnel, c'est une chose, mais après, il faut le décliner circonscription par circonscription, avant de vouloir construire une contre-réponse politique. Oui. Il n'a pas cette information, donc il prend une décision de contre-attaque qui, à mon avis, c'est un suicide, c'est-à-dire c'est vous jouez à la roulette russe avec un barillet qui est rempli de munitions, et à mon avis, c'est un acte
funeste pour les institutions de la Ve République.
Bon, la réponse, ça sera dans 3 semaines. Il reste 3 semaines de campagne, elles vont être passionnantes. Merci messieurs en tout cas d'être venus ce soir. Xavier Patrolin, Albatros Capital, François Girolf pour l'OFCE, Leonidas Kalogiropoulos, Médiation Argument, les entrepreneurs pour la République. Merci messieurs, à très vite. Merci. Avec plaisir pour nouvelles aventures. 18h57, le journal dans un instant. Fred Mazella jusqu'à 20h. On se retrouve lundi bien sûr 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.